Alors si vous voulez bien, on va commencer cette première séance. Je vous remercie d'être si nombreux, parce que c'est la reprise d'un séminaire qui a commencé depuis plus d'un an en réalité. Et donc de voir déjà les étudiants s'être inscrits et puis tout ce public présent pour la reprise, c'est quand même très encourageant et ça nous fait certainement très plaisir. Alors c'est une première séance d'une seconde année d'un séminaire qui s'appelle Figure du juge, que le Centre de droit public organise dans le cadre d'un projet de recherche collective sur le juge. Et ce séminaire vise en fait à proposer différentes facettes, différentes représentations, différentes figures, images du juge, soit à partir d'une tradition, soit à partir d'une discipline non juridique qui aurait abordé cette figure sous un certain angle. Alors cette première séance sera, comme son nom l'indique, une approche relevant à titre principal de la psychologie, et peut-être notre orateur voudra préciser de son point de vue qu'est-ce que l'approche psychologique veut dire dans le cas qui va l'occuper. Il y a certainement plusieurs approches de type psychologique qu'on pourrait faire de la figure du juge. Et le juge et plus généralement la justice seront abordés à partir de la problématique des émotions, dont on sait qu'elles sont souvent très présentes au tribunal et en particulier dans les affaires pénales. Alors pour nous présenter ce thème, nous avons invité Christophe Leys, qui est professeur à l'ULB et chercheur au Centre de recherche en psychologie sociale et interculturelle, où il étudie notamment, mais il démentira si je travestis un peu ses intérêts, les rapports entre émotions, comportements et normes, si j'ai bien compris pour synthétiser. Pour lui répondre, nous avons invité l'un de nos professeurs de droit pénal à la faculté de droit, actuellement vice-doyen de notre faculté, et qui a été, pendant longtemps, de l'autre côté, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il a été l'un des praticiens dont il est ici question de cerner ou de représenter l'action, d'abord comme avocat et puis comme magistrat, puisque jusqu'il y a peu, il était conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles. Je les remercie vraiment tous les deux d'avoir accepté donc cette invitation. Je vais leur céder la parole. Christophe, j'espère que vous arriverez à voir, parce que je vais me mettre devant, donc je vais peut-être vous masquer un peu la vue. Et Christophe va nous faire une présentation, puis Patrick Mandou donnera la réplique, et puis la salle aura tout le temps qu'il faudra pour poser des questions, entamer la discussion de façon libre, aussi bien les étudiants de mon cours de philosophie du droit qui doivent suivre ce séminaire que les invités, les publics présents ce soir en grand nombre. Voilà, je leur cède la parole et merci d'être là.
Merci Julie. Donc, bonjour tout le monde. Effectivement, on ne m'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde que ça. Donc effectivement, on m'a demandé d'amener le regard de la psychologie sur le droit. Alors c'est un grand mot parce que quand on dit qu'est-ce qu'on fait en psychologie par rapport au droit, il y a effectivement tout plein de réponses à apporter à cette question. Mais je vais juste vous donner une approche, effectivement, celle qui se cible plus précisément sur les émotions de manière générale. Alors, un jugement pénal, comment est-ce que nous on le voit en psychologie? De manière assez simple, on est bien conscient que il y a une transgression qui a été commise dans le cadre d'un jugement, enfin en principe, pour peu que la personne soit coupable, et que lorsqu'il y a des faits qui ont été commis, à chaque fait correspond éventuellement une peine, et que ça devrait être assez codifié et assez évident. Et puis on se rend bien compte aussi qu'il y a toute une série d'éléments, de variables, qui eux sont très difficiles à estimer ou à codifier légalement parlant. Je parle par exemple de risque de récidive, d'attribution de personnalité, de circonstances atténuantes, de dangerosité, etc., qui sont des concepts quand même plus compliqués à objectiver. Et parmi l'entièreté de ces variables-ci, arrivent les facteurs humains, comme par exemple les émotions. C'est à ce niveau-là que nous estimons que nous avons modélisé leur influence. Alors, est-ce que on sait déjà des choses sur les émotions avant que je ne m'attaque à ça? Oui, forcément, beaucoup. Alors, j'ai mis ici quelques exemples d'études. Vous avez Darby et Jeffers qui montrent que un physique avenant pouvait conduire à une peine moindre. La plupart de ces études sont faites aux États-Unis, avec comme avantage par rapport à ici, en tout cas comme avantage pour un psychologue, peut-être pas pour des juristes, que à chaque fait correspond une peine et que les faits ne sont pas du tout globalisés pour avoir une peine totale. Et donc, c'est assez facile de comparer des peines dans ce contexte-là. Et donc, ils ont pu montrer que les prévenus qui avaient un physique avenant étaient donc moins sévèrement condamnés que ceux qui avaient un physique considéré comme moins avenant. D'autres ont pu montrer que les émotions des jurés, éventuellement des juges, il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, tous les procès se font à l'aide d'un jury populaire, pas uniquement les procès d'assises. Et donc, les émotions des jurés semblent avoir aussi des influences sur la peine qui va être attribuée aux prévenus. Plus tard, d'autres auteurs ont montré que la formation de l'impression pouvait également avoir une influence. Et par formation de l'impression, on entend essentiellement deux grandes dimensions. Savoir si les gens sont chaleureux, et dans cette chaleur, on met aussi une estimation de la moralité des gens. Et par ailleurs, voir s'ils sont compétents ou pas compétents. Cette deuxième dimension de la compétence est assez peu investiguée, mais par contre, la chaleur semble avoir des effets sur la peine. Alors, plus tard, en 2004, nous avons Mazé et ses collègues qui ont montré que selon que le prévenu développe plutôt des affects, donc des émotions négatives ou des émotions positives, il va être également condamné différemment, plus ou moins sévèrement. Et j'ai terminé par prendre l'exemple de Bright et Goodman de Laventi en 2006, qui montre que lorsque les preuves qu'on apporte pour un crime donné sont particulièrement horribles visuellement, eh bien on a tendance aussi à être plus sévère que quand les preuves amenées, même pour un crime identique, sont visuellement moins choquantes. Donc voilà, ça c'est quelques résultats qui ont déjà été... Il y en a beaucoup d'autres, mais quelques résultats que j'ai sélectionnés. Et en ce qui me concerne, eh bien, je me suis effectivement intéressé aux normes émotionnelles. Donc, bon, les émotions, on les a beaucoup étudiées en tant que ressenti. Qu'est-ce qui se passe quand une personne ressent des émotions à titre individuel? Et puis on s'est rapidement rendu compte que les émotions avaient aussi un grand rôle dans les relations interpersonnelles. Donc c'est un mode de communication. Quand on montre une émotion, ça informe le milieu social d'une série de choses. Et donc c'est de plus en plus étudié, notamment par Mesquita, qui travaille ici en Belgique, à Leuven, et aussi par Parkinson et encore beaucoup d'autres. Qui dit langage finalement, dit forcément codification. Il y a des règles de langage, et parmi ces règles de langage, il y aurait des normes émotionnelles qui correspondent à des attentes émotionnelles. J'entends par normes émotionnelles que dans certains contextes, il est de bon ton de ressentir une émotion ou une autre. Pour vous en convaincre, je vous enjoins par exemple à aller en entournement et commencer à prendre un fou rire. Vous allez tout de suite voir pourquoi ce n'est pas attendu. Et ça marche aussi à l'inverse avec les mariages, etc. Donc il y a toute une série de situations dans lesquelles une émotion est attendue. Alors lorsque on adopte un comportement qui peut être contre-normatif, c'est-à-dire contraire à l'attente émotionnelle, eh bien ça va avoir des impacts sur l'impression que l'on se forme de l'individu qui dysfonctionne par rapport à ses attentes. Ça aussi, ça a été montré par déjà pas mal d'auteurs. Alors, la question évidemment, c'est est-ce que ce processus-là d'existence de normes émotionnelles et d'attentes émotionnelles avec une formation de l'impression différente, est-ce que ça peut s'appliquer dans le contexte légal? Et c'est un peu la question qu'on s'est posée en mesurant plusieurs choses. Donc, d'une part, on a voulu... je dirais, mettre en pratique cette norme et ces attentes émotionnelles. Et ce qu'on a mesuré, c'était des traits assez faciles à mesurer. Donc la formation de l'impression, donc la moralité, la chaleur de l'individu, l'influence, l'estimation de facteurs externes qui pourraient venir expliquer une transgression. Donc est-ce qu'il y a des facteurs situationnels qui ne dépendent pas de l'individu, mais qui pourraient justifier, que ce soit par des circonstances atténuantes ou aggravantes, le comportement transgressif. Et alors la stabilité du trait qui en psychologie est un petit peu le synonyme de risque de récidive, puisque c'est est-ce que c'est un trait stable du prévenu, est-ce qu'on peut rien faire contre, ou au contraire est-ce qu'il va pouvoir changer et arrêter d'adopter le comportement transgressif. Donc ça, on a essayé de le mesurer et on a regardé comment est-ce que l'estimation de ces trois dimensions-là pouvait avoir un effet sur la peine. Et il y avait normalement une quatrième variable qu'on appelle le locus de contrôle qui correspond un petit peu, pas tout à fait, mais à l'intentionnalité. Mais bon, dans la mesure où ce qu'on a fait, c'est surtout utiliser des transgressions qui étaient avérées. En général, on ne se demande pas trop si c'est intentionnel de cambrioler quelqu'un. Donc on a un peu laissé ça de côté. Alors qu'est-ce qu'on a fait tout à fait pratiquement? Là je rentre un petit peu dans des considérations chiffrées, je ne sais pas si vous êtes confortable avec ça, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc on a pris un certain nombre de personnes, dont je vous donne l'âge et l'écart type de l'âge pour ceux que ça intéresse, et on a manipulé en fait deux émotions, la culpabilité et la colère. Donc la culpabilité pouvait être présente, à savoir un prévenu se sent fort coupable de la transgression qu'il vient de réaliser, versus il se sent absolument pas coupable de la transgression qu'il vient de réaliser. Tout ça était informé par un questionnaire, donc avec un scénario. Et une autre émotion qui pouvait être, soit le prévenu exprime de la colère et refuse complètement son jugement, soit il n'en exprime aucune et il accepte clairement son jugement. Donc en fait, il y a de la sorte quatre conditions. Soit vous pouvez vous sentir coupable mais être en colère, vous sentir coupable et ne pas être en colère, ne pas vous sentir coupable et être en colère, ne pas vous sentir coupable et ne pas être en colère. Et donc chaque individu recevait une de ces quatre configurations, et en dehors de cela, la transgression, toutes les informations autour de cette transgression étaient constantes chez tout le monde, il n'y avait que la présence ou l'absence de ces émotions qui variaient d'un questionnaire à l'autre. On mesurait donc chaleur, facteur externe et peine, on reviendra sur les risques de récidive plus tard, et voici les résultats que l'on obtenait en termes de variabilité de la peine, de sévérité de la peine. Donc vous voyez que quand un sujet se sent coupable et n'est pas en colère, alors réfléchissons un peu à ce que ça veut dire, vous avez un prévenu qui arrive, il dit qu'il regrette très fort son acte, et qui comprend tout à fait qu'il doit être jugé pour cet acte, qu'il accepte son jugement, eh bien, c'est la condition dans laquelle la sévérité de la peine est la plus élevée, dans ce cas-ci. Et par contre, une autre condition où c'est assez élevé aussi, c'est quand il fait exactement l'inverse, à savoir, il ne se sent absolument pas coupable, il vous informe qu'il ne regrette pas du tout ce qu'il vient de faire, et qu'en plus de ça, il n'est pas du tout content de se faire juger, et qu'il refuse complètement le jugement. Ben c'est assez sévère aussi. Et là où c'est le moins sévère, c'est quand il adopte un comportement relativement surprenant. Pourquoi surprenant ? Ben parce que ici, cette personne se sent coupable, mais elle est en colère. Alors ça, c'est un peu paradoxal, parce que si vous dites, voilà, je comprends bien, j'aurais pas dû le faire, etc., mais j'ai rien à faire ici, je vois pas pourquoi on me juge. On se demande un peu ce qui se passe dans la tête de cette personne. Et inversement, elle peut aussi ne pas se sentir coupable, dire « ben voilà, je l'ai fait, oui, j'assume, si c'était à refaire, je recommencerai, mais c'est tout à fait normal d'être jugé, je comprends très bien, et vous devez me juger à votre convenance ». Mais là, ce sont les deux conditions qui sont les moins sévèrement punies. Donc là, évidemment, quand on a vu ces résultats, on était un peu étonné, on se disait « ben tiens, on s'attendait évidemment à ce qu'ici ce soit le plus clément, hein, quand tout le monde réagit comme ce à quoi on attend ». Et en fait, non. Alors, on a essayé de regarder par où ça passait, ça, qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens pour arriver à ce genre de résultats. Et ce qui semble se passer, c'est que quand on adopte des comportements un peu paradoxaux, ben justement, comme c'est paradoxal, les gens semblent essayer d'expliquer ce paradoxe. Et une manière d'expliquer ce paradoxe, c'est de dire, ben voilà, s'ils sont coupables, mais qu'ils râlent vraiment d'être en train d'être jugés ici, c'est peut-être parce qu'ils estiment que c'est justifié d'avoir commis cette transgression. Il sait qu'il ne peut pas, mais peut-être qu'il y avait des choses qui justifiaient qu'il l'ait fait quand même. Et donc, on vient lui attribuer plus de facteurs externes, plus de circonstances atténuantes, en fait. juste à cause du comportement émotionnel, je le rappelle. Hein, donc tout le reste était tout à fait stable au sein des conditions. Et alors ça, c'est bien, mais j'avais utilisé comme manière de déterminer le prévenu Monsieur X. Monsieur X qui semblait être, dans l'esprit des gens, un Belge. Et puis je me suis demandé, oui, mais admettons maintenant qu'on change et qu'on distingue l'origine ethnique du prévenu. Est-ce que ça pourrait avoir une influence ? Alors la question, c'est pourquoi est-ce que ça aurait une influence ? C'est parce que, comme beaucoup de choses concernant les comportements, qu'ils soient émotionnels ou autres, il existe des stéréotypes. C'est-à-dire on s'attend à ce que certaines personnes ressentent certaines émotions, et peut-être qu'en fonction de la catégorisation, on s'attend à d'autres émotions. Et donc ce serait quelque chose qui altérerait la situation. C'est-à-dire que dans le cadre d'un jugement, on aimerait bien que les gens se sentent coupables, on aimerait bien qu'ils acceptent leur jugement, bien que quand un Belge réponde à ses attentes, on est relativement sévère. Mais peut-être que si l'origine ethnique est différente, on aurait des stéréotypes concernant les comportements émotionnels des gens. Alors ça, c'est ce qu'on a voulu vérifier. Et donc, en quelques mots, je voudrais quand même vous rappeler ce que c'est qu'un stéréotype. Donc un stéréotype, c'est une croyance partagée à propos d'un groupe social. Ce qui est important là-dedans, c'est que une croyance, ça veut dire une cognition, ça veut dire une pensée. Donc c'est pas une émotion, c'est pas un comportement, c'est une pensée. Qui est partagé, ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on pense tout seul dans notre coin à propos d'un groupe, c'est quelque chose qui est partagé par un grand nombre d'individus et à propos donc d'un groupe. Alors ces stéréotypes sont souvent une simplification de la réalité et ont une utilité. Quand on ne sait pas à quoi s'attendre ou quand on est dans une situation neuve, avoir des pressentiments pour pouvoir prédire ce qui va se passer, ça nous aide, et donc l'utilité des stéréotypes est avérée. Et pour qu'un stéréotype soit mis en place, il faut d'une part qu'on catégorise, hein, qu'on trouve des catégories pertinentes. Donc, est-ce que l'origine ethnique d'un prévenu est une catégorie pertinente ? C'est la question. On pourrait par exemple se dire, tiens, 99% des prévenus sont des hommes par rapport aux femmes. Il y a très peu de prisonniers femmes. Est-ce que ce n'est pas une catégorisation pertinente plus que l'origine ethnique ? Et puis, on peut imaginer des tas d'autres catégorisations, l'âge, tout ce que vous voulez. Une fois qu'on a catégorisé, il faut activer cette catégorisation et le stéréotype qui va avec. Et puis, il faut encore l'appliquer aussi. Donc, ça, ce sont les trois étapes pour qu'un stéréotype soit mis en application. Et il semble que tout ce processus se passe de manière assez automatique. Donc, on n'a pas beaucoup de contrôle sur l'application de nos stéréotypes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci ? La même chose, donc de nouveau un questionnaire avec les mêmes transgressions, parce qu'il y en avait plusieurs. Toujours ce mélange de culpabilité et de colère, comme dans la première expérience que je vous ai montrée. Mais cette fois-ci, j'ai fait varier l'origine ethnique du prévenu, simplement en manipulant le prénom. Donc dans un premier cas, j'appelais le prévenu, Van de Waal, je pense, et dans le deuxième cas, El Kader. Je crois que c'était ça, ce qui laissait suggérer une origine belge et une origine nord-africaine. De nouveau, j'ai mesuré chaleur, facteurs externes, peine, et évidemment les stéréotypes. À quoi est-ce qu'on s'attend comme comportement émotionnel ? Alors, quels sont les résultats ? Première chose, les stéréotypes. Voilà pour les Belges. Ça veut dire qu'un Belge, on s'attend assez bien à ce qu'il se sente coupable et à ce qu'il ne soit pas en colère. Ça nous semble tout à fait correspondre à l'image du Belge. Et puis, plus il est contre-normatif, moins on s'y attend. Donc on ne s'attend pas du tout à ce qu'il ne ressente pas de culpabilité et qu'il soit en colère. Et puis, des situations un peu paradoxales, on ne s'y attend pas trop non plus. On s'attend surtout à ce qu'il se ressente de la culpabilité et qu'il ne soit pas en colère. Si je regarde exactement la même chose pour les Nord-Africains, voilà ce que j'obtiens. C'est-à-dire que on ne s'attend surtout pas à ce qu'ils se sentent coupables et qu'ils ne soient pas en colère. Ce à quoi on s'attend, c'est qu'éventuellement, ils ne se sentent pas du tout coupables et qu'ils soient en colère. Ça ne nous étonnerait pas, absolument pas. S'ils étaient juste en colère mais qu'ils se sentaient coupables, ça ne nous surprendrait pas trop non plus. Et alors, s'ils ne se sentaient pas coupables mais qu'ils n'étaient pas en colère, ça va encore aussi. On s'y attend relativement. Mais en tout cas, la condition complètement normative, ça c'est très surprenant. Alors du coup, comment évolue la peine ? ben, on retrouve un petit peu la forme que je vous avais montrée pour le prévenu belge, c'est-à-dire que quand il réagit de manière complètement normative ou complètement contre-normative, ben, dans les deux cas, il est relativement sévèrement puni. Par contre, dès qu'il adopte un comportement paradoxal, eh bien, de nouveau, on voit une baisse significative, d'ailleurs, de la peine. Donc c'est de nouveau ce principe que quelqu'un qui agit de manière surprenante, on va essayer d'expliquer ça, et manifestement, en tout cas dans la configuration que j'ai utilisée, on apportait des circonstances atténuantes qui viennent expliquer la transgression, ce qu'on ne fait pas lorsque la personne est soit complètement normative, soit complètement contre-normative. Ça, c'est juste un mal appris. Alors, si maintenant on regarde ce qui se passe au niveau des prévenus nord-africains, ah ben voilà, ça change complètement. À savoir que lui, quand il agit complètement normativement, mais donc aussi complètement contre-stéréotypiquement, hein, donc on ne s'attend pas du tout à ce qu'il fasse ça, mais là il se sent tout à fait coupable et en plus il accepte son jugement, rare. Et donc là on est très très clément. Pour le Belge non, mais pour le Nord-Africain oui. Par contre, dès que il est contre-normatif, que ce soit pour une des émotions ou pour les deux, ben, c'est déjà moins bien barré pour lui. On est beaucoup plus sévère à ce niveau-là. Alors voilà, alors on a regardé un petit peu comment on pouvait expliquer ça, et ce qui semble expliquer le processus, de nouveau dans la condition belge, c'est donc surtout les facteurs externes, et dans la condition nord-africaine, c'est beaucoup plus la chaleur. Bon, et dans les deux cas, les risques de récidive un petit peu, mais je n'insiste pas trop là-dessus, parce qu'en fait, les risques de récidive, on pourrait très bien les inférer à partir de la personnalité et des facteurs externes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que l'estimation des facteurs externes influence beaucoup la peine, la détermination de la peine pour un prévenu belge, tandis que c'est beaucoup plus la chaleur qui est estimée pour la condition nord-africaine. Et alors, plus que ça, dans la détermination de la chaleur, il y a une dimension qui est très importante pour estimer la gravité de la situation pour un nord-africain et qui est complètement non pertinente pour un prévenu belge, c'est la perception de son niveau d'intégration à la société, à la culture d'accueil. À savoir, un nord-africain qui se sent coupable, alors qu'on s'attendait à ce qu'il ne se sente pas coupable, qui n'est pas en colère, alors qu'on s'attendait à ce qu'il soit en colère, qu'est-ce qu'il fait finalement ? Ben, il adopte un comportement qu'on attend tout à fait de la part d'un Belge, mais pas d'un Nord-Africain. Et donc c'est quelque part une mesure d'intégration à la société. Et donc à ce moment-là, ben voilà, ça peut stimuler un mouvement de sympathie qui pourra avoir une conséquence sur l'estimation de la paix. Voilà. Alors, je rappelle que tous ces gens que j'ai testés, c'était pas des magistrats qui font ça tous les jours et qui ont une expérience dans le domaine. Hein. J'ai fait ça d'abord sur des étudiants tout venant et aussi sur des étudiants en droit, donc vous, en dernière année de droit, enfin, donc certains d'entre vous, et en dernière année de droit. Donc ça veut dire qu'ils avaient quand même un background théorique, mais pas encore une expérience de terrain. Donc après ça, comment savoir comment ça se développe sur le terrain, ce genre de dynamique, j'en sais rien. Ou pas grand-chose. Alors, donc la conclusion, ben, c'est que quand on appartient à un exogroupe, une des dimensions importantes, c'est de s'intégrer, tandis que quand on fait partie de l'endogroupe, il est possible de jouer avec les normes émotionnelles et de susciter un questionnement par un comportement un peu paradoxal. Voilà, et alors évidemment il n'y a que faire après ça, ben, dans la mesure où je ne sais pas comment ça s'applique en pratique, il faut juste rien faire, je n'ai pas de recommandation, mais évidemment, est-il nécessaire de sensibiliser les gens aux processus cognitifs qu'on observe, qui sont des processus psychologiques, ça ce serait une première action. Et alors concernant la législation, est-il utile de légiférer? J'ai juste voulu vous signaler qu'au Japon c'est le cas. Donc, au Japon, il est tout à fait interdit de présenter ses excuses pour une transgression. Mais bon, la différence, c'est que au Japon, si vous êtes devant un tribunal, ben il y a déjà une honte qui rejaillit sur votre famille. Et donc, même si vous n'avez pas commis le délit, vous êtes censé vous excuser. Et si vous vous excusez, ben quelque part, c'est aussi un indicateur que vous avez commis le crime. Et donc, ça peut aussi poser des problèmes. Et donc, ils ont légiféré, ils ont dit, bon ben voilà, sachant que ce mécanisme-là est possible, on interdit la présentation d'excuses dans le cadre d'un jugement pénal. Voilà. C'est en quelques mots ce que je voulais vous présenter.